Nos que non temos pasado, mulleres, nos que non temos historia, logo da noite dos tempos, mulleres, nos continente negro. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé. Baixo xugo aldrasadas, mulleres trafegadas, violadas, dentro de todas as casas, mulleres e do mundo illadas. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé.
La révolution sera féministe sur Radio Galère. Bonjour à toutes et tous. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai pour invité un homme, le dérapeur. Et donc, c'est MC Duval.
Salut à tous.
Voilà, donc pourquoi je fais venir un homme dans cette émission. Donc je... En fait, c'est la première fois que j'ai pour invité un homme, c'est pour ça que je l'ai souligné. Enfin, j'ai déjà eu des invités hommes, mais c'était avec l'Amicale d'Unis et avec un homme de l'Amicale d'Unis, des travailleurs sociaux et aussi Cyril Mbiaga. Mais il y avait toujours des femmes. Tandis que là, voilà, c'est le dérapeur. Et là, j'ai une bonne raison de l'avoir invité aussi. Donc, c'est un allié pro-féministe, évidemment. Et il a pensé à quelque chose qui me semble très important en tant qu'homme allié féministe, c'est de parler surtout aux autres hommes et de dénoncer la culture du viol dans le rap, la misogynie du rap. Voilà.
Ouais, vaste programme. Je te remercie de m'avoir invité, je suis très honoré. Effectivement, donc moi je viens en tant que dérapeur. C'est le projet, ça s'appelle Le Dérapeur, et c'est un personnage, c'est quelqu'un qui s'autorise le droit de parler du rap de façon critique, voire très critique. En fait, je considère que le rap est une idéologie qui a une influence sur la société, qu'il est temps de remettre en cause un petit peu cette influence parce qu'elle véhicule énormément de misogynie. Et donc, c'est le sens de ma présence ici, c'est que... bon, effectivement, voilà. C'est vous écoutez, La Révolution sera féministe. C'est une émission qui existe depuis 2018, que tu tiens à bout de bras depuis 2018. Chaque semaine, tu nous apportes un contenu féministe hyper intéressant, je trouve. Donc, avant de commencer notre conversation aujourd'hui, je tiens à te remercier parce que moi personnellement, tu m'as beaucoup apporté. Dans ma construction, dans ma culture féministe. Et j'ai entendu des gens absolument passionnants ici, sur cette, soit en conférence, en extrait, ou des invités que tu as pu avoir ici. Et ben, ça met un petit peu la pression parce que, du coup, comme je suis le premier homme invité, bon, moi, je viens pas parler en tant qu'homme, je viens parler en tant que militant, féministe. Et, je fais partie de ceux qui pensent que le féminisme concerne les hommes.
Bien sûr, bien sûr.
On vit dans une société qui a... Je pense qu'on vit un... Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on vit un recul féministe sans précédent à travers le monde. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui bougent un peu de tous les côtés. Il y a eu MeToo, il y a une vraie nouvelle révolution féministe, une nouvelle vague. Et pourtant, il y a une recrudescence de la prostitution, il y a une recrudescence des violences faites aux femmes, il y a une culture du viol qui est boostée par la pornographie, qui prend toujours plus de place dans la société. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup à dire.
Ouais, voilà. En fait, au début d'émission, maintenant, je reviens sur ce que j'ai dit. Peut-être que ça fait bizarre aux auditrices et aux auditeurs de justifier, comme si je justifiais de faire venir un homme. Mais en fait, je voulais quand même m'expliquer par rapport à ça. Donc, effectivement, je pense que les hommes sont concernés par le féminisme. On aimerait bien qu'ils se sentent concernés, qu'ils bougent et qu'ils fassent quelque chose. Mais une des questions aussi que j'avais prévu de poser à Pierrot, c'était comment se placer en tant qu'homme. Et du coup, voilà, c'est pour ça aussi que je vous explique un peu, moi, pourquoi j'ai confiance en lui et pourquoi je l'ai fait venir, en fait. Déjà, parce qu'effectivement, comme il a dit, il suivait l'émission « La Révolution sera féministe » et c'est la raison pour laquelle il m'avait contactée. Donc, voilà. Et quand tu m'as contactée, mm-hmm. parce que tu es là, c'est parce que tu avais un album avec des chansons qui dénoncent la culture du viol. Donc au départ, tu m'as contactée par rapport à ça. Et moi, je me suis dit, bien sûr, j'ai envie de parler avec Pierrot, donc avec toi, mais je ne te connaissais pas. Et intérieurement, je me suis dit, mais attention, moi, je me disais à moi-même, faudra pas qu'il vienne en pensant m'expliquer sur le féminisme, en pensant que voilà, il va faire la promo de son album et finalement, parler de lui. Parler de voilà me donner des leçons de féminisme parce que déjà on vit ça tout le temps, le mansplaining, etc. Et malheureusement vous devez savoir que non, je ne suis pas séparatiste, je pense que le féminisme concerne vraiment les hommes et qu'il faut qu'ils se bougent les fesses et qu'ils doivent laisser la place aux femmes, ils doivent pas être indifférents à tout ça, mais qu'ils doivent avoir un bon positionnement et que en fait ils ne doivent pas, ils doivent se placer en alliés, mais pas en avant. Et voilà, c'est tous des questionnements que peut-être vous vous posez aussi. Et voilà. Du coup, j'ai trouvé que tu avais une très bonne attitude parce que quand on s'est rencontrés, d'abord tu as commencé à poser des questions aussi sur justement, comme tu l'as dit, la prostitution, la pornographie. Et donc ça, j'ai énormément apprécié le fait que ce soit un échange dans ce sens-là, ce soit toi qui poses des questions et d'abord j'ai beaucoup 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 parlé. Puis ensuite, j'ai vu qu'effectivement ton engagement était véridique, profond, et que je suis assez fière de moi du fait que tu sois vraiment devenue très engagée sur l'abolition, et ça c'est très important pour moi, ne serait-ce que réussir à, qu'une personne elle déclique et comprenne à quel point c'est important. Donc pour moi c'est super. Et puis ensuite on s'est mis à échanger, c'est très agréable de pouvoir échanger. Tu as fait tes recherches, etc., tes lectures, etc., bien sûr. Voilà, je vais te laisser parler, je prends un peu parole, mais c'est un peu pour expliquer moi aussi comment s'est passée cette rencontre.
Ne compte pas sur moi pour te couper la parole.
Voilà. Et le pourquoi de tu es là aujourd'hui,
justement,
parce que
quand on est un homme et on est censé couper la parole aux femmes et tout ça, le mansplaining, évidemment, c'est cette tendance qu'ont les hommes à vouloir expliquer. Ils ont toujours, c'est marrant, je le vis moi en tant que militant féministe, mm-hmm. je le vis, c'est que des fois je suis confronté dans des discussions sur les réseaux sociaux ou quoi, à des hommes qui viennent me donner ou nous donner des leçons de féminisme et tout le monde croit avoir tout compris, mieux compris, et ça c'est une vraie tendance qui est insupportable. La place des hommes, c'est un sujet mais qui est super important parce que on le vit avec. En fait, moi j'ai envie de dire aujourd'hui vraiment que le féminisme, c'est quelque chose d'absolument enrichissant, quoi. C'est vraiment c'est passionnant, et quand on commence à s'intéresser à ces questions-là, à pourquoi les choses sont comme ça, des questions toutes simples en fait. Pourquoi la vie d'une femme, c'est pas la même chose que la vie d'un homme? Pourquoi en 2022, quel que soit le pays où on vit, parce que c'est la condition de la femme, c'est quelque chose qui est universel aussi, et les violences sont hélas universelles. La domination masculine, elle est générale. Et comment on s'attaque à ça, en fait? Comment on fait bouger les lignes par rapport à ça? Et J'ai horreur de. Je sais pas pourquoi je dis nous les hommes. Enfin, je suis très très peu à l'aise avec ça. Le terme d'allié, par exemple, je commence à m'y faire. Je trouve que c'est un terme comme un autre et qui est pas mal. Donc ça me va très bien le terme d'allié. Je sèche un peu là. J'ai tellement de choses à dire. En fait,
peut-être revenir au sujet, parce que voilà, du coup, tu as réfléchi, enfin, d'après ce que j'ai compris, à ce que toi tu pouvais amener par rapport à ton vécu, ton expérience, etc.
Ouais, ouais.
Et comme tu es créateur de rap toi-même, eh bien, tu as voulu dénoncer.
Voilà, moi, je suis rappeur.
Et tu sais de quoi tu parles.
Je suis rappeur depuis 20 ans. Je suis Duval MC, donc je me suis souvent exprimé sur les ondes de Radio Galère. J'ai moi-même animé une émission sur la France-Afrique et l'ingérence française post-coloniale en Afrique. C'était en 2007-2008 sur les ondes de Radio Galère. Comment j'en suis venu au féminisme? Parce que quelque part... j'aimerais répondre brièvement à cette. En fait, je n'ai pas toujours été féministe. J'ai eu une maman qui a été très impliquée après mai 68 sur Paris, à travers le syndicalisme, dans le mouvement d'émancipation des femmes, pour défendre le droit à l'avortement, pour défendre la contraception. Elle a créé plusieurs comités, plusieurs sections de femmes au sein de son syndicat. Et à plusieurs moments dans sa vie professionnelle, elle a milité. Moi, ça, c'est l'histoire de ma maman. C'est une histoire que j'ai découvert récemment, en fait, parce que j'avais une image très simple du militantisme féministe de ma mère, mais sans aller chercher le pourquoi du comment et sans aller savoir ce qu'elle avait... chercher à savoir ce qu'elle avait fait vraiment. Et en fait, je découvre ça en ce moment en l'interrogeant, en discutant beaucoup avec elle. C'est passionnant. Après, j'ai pas le sentiment d'avoir reçu une éducation particulièrement féministe. C'est des choses qui me sont venues à l'esprit un petit peu plus tard. En 2018, j'ai lu La recherche du temps perdu de Proust. Donc j'ai mis un an et demi à le lire, et c'est une je sais pas si tu sais, Nadia, mais c'est un bouquin qui a vraiment changé la vie de Simone de Beauvoir, parce que elle l'a lu, elle avait une vingtaine d'années quand elle l'a lu, elle a découvert cette envie d'écrire qui fait, pour moi, Simone de Beauvoir c'est avant tout quelqu'un qui a une envie d'écrire gigantesque. Et qui est très inspirante pour tout le monde, parce que c'est quelqu'un de très très positif qui a apporté énormément à la société et au monde entier, puisqu'elle sa pensée, son œuvre a eu une résonance très importante aux États-Unis et dans le monde entier. Simone de Beauvoir, quand elle a découvert La recherche du temps perdu, ça a été le début de sa pensée féministe aussi, et de son apport qu'elle a mis en place jusqu'à écrire Le deuxième sexe en 1949.
Et pourquoi, tu peux expliquer pourquoi?
Et pourquoi? Mais alors, je ne sais pas s'il y a des Proustiens qui nous entendent, mais en fait, quand on tombe dans Proust, on devient carrément fan, quoi. Soit on laisse tomber le bouquin parce qu'on n'arrive pas à lire, soit on devient carrément fan. De ce rapport au monde très dans une écriture fantastique de voyage intérieur, un rapport à la mémoire, un rapport extra-temporel, parce qu'en fait c'est le but de Proust, c'était de voyager dans le temps, en fait, clairement. Donc, si il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas voyager dans le temps, j'ai envie de leur dire, bah, lisez Proust, parce que techniquement, on a matière à voyager dans le temps. Et quand on lit ça, on a la capacité de retrouver notre enfance, des tas de scènes, de choses qu'on a vécues et tout ça.
Mais pourquoi cette lecture a eu un impact sur toi au niveau de ton féminisme ?
Ça s'est fait avec plein d'autres choses. En même temps, je m'intéressais beaucoup à l'hypnose, je m'intéressais beaucoup à des podcasts féministes, donc plutôt l'IPFEM, on va dire, les couilles sur la table, j'ai dévoré ça assez rapidement, des choses comme ça, mais qui sont quand même intéressants. Et puis petit à petit, j'ai eu envie de lire les femmes. En fait, c'est ça qui est vraiment important, voilà. C'est qu'il faut lire.
Ça, c'est bon à souligner.
Il faut lire les femmes.
Enfin, je dis oui à ça, effectivement. C'est ce que je suggérerais aussi aux hommes alliés. C'est lisez les femmes, quoi. Et observez vos bibliothèques aussi, pardon. Mais,
carrément.
Parce que, voilà, je pense que c'est souvent flagrant quand on observe la bibliothèque, les bibliothèques des gens. Mais aussi les femmes. On voit très peu de livres de femmes dans les bibliothèques.
Ouais.
Donc, si vous voulez vraiment changer votre vision du monde et comprendre, commencez à regarder si vous lisez ou pas des livres de femmes. Et si vous voulez vous intéresser au féminisme, eh bien, lisez...
lisez les femmes.
Voilà.
Carrément. Ouais. Et ça me fait penser à une petite anecdote. À un moment, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y avait Alice Coffin qui faisait une conférence et il y a des gens d'extrême droite qui sont venus déployer une banderole misogyne et lesbophobe, en fait, par rapport à Alice Coffin. Et je trouvais ça tellement injuste et tellement... je trouvais ça vraiment révoltant et je me suis posé la question, je me suis dit mais qu'est-ce que ça va faire si je laisse un commentaire en disant que c'est des abrutis et que voilà et que voilà, qui se trompent et que ça n'aura pas d'impact. Et ma vraie réponse que j'avais envie de faire à ces gens d'extrême droite qui embêtaient cette militante lesbienne qui est aussi représentante politique à la ville de Paris, Alice Coffin, je me dis je vais lire son bouquin. En fait, ça sera la meilleure réponse que je puisse faire. Je vais lire son bouquin. En fait, je vais m'intéresser à la pensée de cette nana. Et donc, j'ai acheté Le génie lesbien que j'ai lu sur ma liseuse. Et puis, ça m'a beaucoup intéressé. J'ai trouvé ça très, très juste dans l'ensemble, ce qu'elle disait. Et ça m'a alerté sur l'invisibilisation des lesbiennes, c'est terrible. Dans l'espace médiatique, il y a une sous-représentation, il n'y a pas de représentation du tout. Et quelque part, la société se prive de tout un angle de vue. Et par ailleurs aussi, ça m'a fait réfléchir à ce qu'était la lesbiennité. Parce que ça, enfin, c'est des mots, hein, la lesbiennité, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment intrigué, parce que dans mon parcours militant, j'ai rencontré plein de fois des lesbiennes, et il y avait un truc qu'elle disait à Alice Coffin, c'était que très souvent les lesbiennes étaient les premières engagées pour les droits de l'homme, pour les sans-papiers, pour l'écologie, sur des tas de causes, dans des tas d'assauts. Et c'est quelque chose que j'ai pu...
C'est vrai pour le féminisme en général, et c'est vrai que les lesbiennes, effectivement, ont beaucoup apporté au féminisme et au militantisme aussi, voilà.
Ouais.
Est-ce qu'on peut revenir... sujet du rap qui m'intéresse.
Et j'ai sorti un quatrième album en 2021, donc là, tout récemment. Un album qui s'appelle Balle des causes, qui est peut-être, en fait, c'est peut-être mon premier album féministe, mais en fait, j'avais dans mon premier album qui était sorti en 2008, Matière première, il y avait un morceau qui s'appelait Si t'as des couilles, man, qui déconstruisait de manière ironique le virilisme et la misogynie ambiante dans le rap. Mmh. Donc je prenais à rebours l'expression « si t'as des couilles man » qui est très viriliste, pour dire, ben voilà, si t'as des couilles man, intéresse-toi au monde, ne prends pas les filles pour des connes, mmh. instruis-toi, lève-toi, fais des choses. Et donc, j'ai retourné le truc. Donc déjà, à cette époque, il y avait cet angle de vue. Et l'album Balle des causes, il y a donc... En fait, c'est ma manière de m'attaquer aux violences faites aux femmes. Moi, mon but, c'est de m'attaquer aux violences faites aux femmes, par tous les moyens possibles, par le moyen militant, par le moyen artistique, par mon propre comportement de père de famille, d'homme, de compagnon, d'allié, de l'homme que je suis avec mes amis femmes, mes amis IE, donc à tous les niveaux. Je souhaite un monde où il y a moins de viols.
Et le rap, enfin, c'est
une société où il y a moins de viols.
Et le rap, c'est très important en fait dans notre culture actuelle. C'est ça, c'est un vecteur de. Enfin, voilà, t'as remarqué que c'était très écouté et que ce qui a favorisé, c'est pas. Enfin, les rappeurs actuellement sont pas du tout. Je te laisse en parler.
J'avais très envie de partager mon féminisme, mes idées. J'avais très envie. Moi, mon métier, c'est écrire. Hein. Je suis un auteur de rap, auteur de livres pour enfants. Donc, mon métier, mon rôle dans la vie, c'est d'écrire, de parler, de partager mes idées, de les faire évoluer. Et je me disais, mais comment je peux inscrire cette envie de faire bouger les choses au niveau du féminisme. Et là je me suis aperçu que le milieu duquel j'émane, en fait la culture que j'ai par le passé revendiquée, comme je considérais que j'en faisais partie du milieu du rap. Et pourquoi ne pas faire une critique féministe du rap? Et d'autant plus que moi, j'ai pas envie de prendre la place des féministes. J'ai pas envie de m'attaquer à des sujets où des meufs vont dire des choses, elles vont les dire 20 fois mieux que moi, de toute façon. Donc, j'ai pas envie de redire des trucs qui ont été déjà dits. Je vais m'attaquer au rap. Parce que là, il y a en fait le rap, c'est une masse textuelle, narrative, qui n'est pas préhensible, qui n'est pas possible. C'est trop dur pour une femme de se confronter à ça. En fait, c'est trop dur à écouter. C'est trop violent. Enfin, c'est un peu bête ce que je dis, mais pour une militante, c'est c'est trop horrible de en fait on peut s'intéresser à un texte et tout, mais on peut pas aller plus loin. Enfin, moi le but c'est carrément d'y aller, d'aller voir
C'est surtout que tu critiques cette culture d'hommes misogynes, et c'est ça qui me semble intéressant. Après, je sais pas si c'est trop dur pour une femme de se confronter à ces textes, je pense pas, puisque je veux dire, par exemple, les militantes d'Oser le féminisme, elles sont confrontées aux vidéos porno, et que c'était atroce, que ça les a rendues malades, et grâce à ça, enfin, en fait, elles sont en train de on essaye de faire le procès des pornocrates, donc en fait visionner toutes ces vidéos de viols tarifés filmés des femmes, je pense que c'est largement aussi dur à vivre que de se confronter au texte de rap.
C'est pas ce que j'ai voulu dire, mais c'est que on a cette réalité quand on est militant on est entre la connaissance de choses qui sont horribles, qui sont insoutenables, qui soulèvent le cœur, qui donnent envie de gerber, quoi. On a à charge, entre guillemets, de raconter ça, de synthétiser ça et de le raconter aux autres, aux gens, à travers les réseaux sociaux, à travers les communiqués, les mails, notre activité militante. Dans ton émission sur Radio Galère, c'est de prendre connaissance de choses qui sont insoutenables. Mm-hmm. Et
de le faire savoir.
Et de le faire savoir de le dévoiler. comme un élément signifiant. Je regardais le documentaire sur l'inceste. Mm-hmm. Ça commençait par ça. C'était tous les témoignages de gens qui ont été incestés. Mm-hmm. C'était de dire, on l'a vécu. Alors, vous pouvez l'entendre.
Mmh, bah oui. C'est là, sauf que on est dans un déni, mais notre culture est profondément misogyne et patriarcale. Et voilà, il y a plein de les films, la musique, et voilà. Et actuellement, le rap, donc tu t'es intéressé parce que c'est ta culture et tu étais dedans, quoi, tu nageais dedans. Donc du coup, ça me paraît vraiment justement intéressant que tu te sois plongé là-dedans et que tu sois devenu très critique avec ton regard affiné, enfin qui s'est affiné au fur et à mesure de ce que tu apprenais sur le féminisme. Enfin, moi, je comprends ça comme ça.
Ben ouais. Voilà. Alors, j'ai toujours été en marge du rap, en revendiquant le fait d'être
tu t'étais déjà aperçu.
Mon credo, c'était un autre rap est possible, quoi. Tu vois, j'ai toujours été en marge de ça.
D'accord.
Et en fait, pendant 20 ans de ma vie, mon but était de faire un autre rap. Parce que finalement, la meilleure chose à faire quand on entend du rap de merde,
d'en proposer un autre,
c'est de faire du bon rap. Mmh. Donc ça, je l'ai fait.
Okay.
J'estime que j'ai fait ma part. J'ai contribué à ce que du rap de qualité existe. Sauf que il y a des réalités économiques dans le rap qui font que il y a tout un tas de gens qui sont capables de faire du très bon rap et de véhiculer des très bonnes choses, mais qui seront jamais entendus, qui ne passeront jamais sur Skyrock et consorts. C'est tout un pan culturel dont j'ai envie de parler aussi avec le dérapeur. Mais je me suis aperçu en analysant les textes de rap que c'était pire que ce que je pensais, quoi. C'était dès le premier texte que j'ai ouvert, quand j'ai choisi un artiste que je savais comme étant très misogyne et pro-prostitution et tout ça. Et puis il m'a fallu dès le premier texte, et tous les autres textes après étaient regorgés de culture du viol. C'est-à-dire, le rap, c'est la culture du viol à l'état pur. C'est vraiment... alors, je mets des parenthèses ou un petit astérisque pour dire que quand je parle du rap, je parle du rap mainstream, je parle du rap commercial, je parle du rap grand public, le rap que tout le monde connaît. Ou dans lequel il peut y avoir des petites exceptions, parce qu'il y a des Gaël Faye, il y a des Edgar Secloca, il y a des gens qui ont eu aussi un certain succès, une certaine audience, et qui peuvent faire du bon rap. Mais globalement, le rap est de la culture du viol de A à Z. Alors déjà, les femmes dans le rap sont toujours évoquées, donc 9 fois sur 10, elles sont évoquées comme des objets de plaisir, donc de plaisir sexuel, des propriétés, elles sont évoquées comme des propriétés, donc soit présentées comme, elles sont tout le temps présentes, excusez-moi d'être cru, mais une femme dans la culture du rap, c'est quelque chose qu'on baise. Voilà, elles sont pas renvoyées à leur statut d'être humain, en fait. Elles n'ont même pas d'existence en tant qu'être humain. Elles sont un objet sexuel. À de rares exceptions près où les femmes vont être évoquées en tant que mères. Donc, il y a toujours...
Ce sont les rôles typiques patriarcaux.
De temps en temps, il y a une petite évocation de femmes. Alors là, ça va être la maman, quoi. Mm-hmm. La maman, on va dire qu'on fait du trafic de drogue pour nourrir la maman. Ou alors, on va faire carrément, comme c'était la mode à l'époque, les rappeurs, ils avaient toujours un morceau dédié à leur maman. Donc c'était un peu pour... le rôle de la femme dans la société, selon les rappeurs, il est celui-là. Il est hyper misogyne. Il n'y a qu'un seul rôle, il n'y a qu'une seule fonction. C'est se faire bouillave, comme ils disent, et c'est... C'est où le viol, enfin le viol est omniprésent, à peine voilé, parce que des fois il est c'est en noir sur blanc, c'est écrit de manière très explicite. Il y a des références aux tournantes, mm-hmm. au viol collectif, de manière positive. C'est là j'exagère pas, Nadia.
J'exagère même pas en fait. Ouais.
On peut constater dans plein de textes qu'il y a des moments où les viols collectifs sont évoqués comme quelque chose qui fait partie du décor et comme quelque chose qui passe, quoi. Qui est même on n'est pas loin de. En fait, comme il y a une escalade dans l'abject. Il y a une espèce d'esthétisation mmh. de la malfaisance, en fait. Et la misogynie, chez un rappeur, c'est quelque chose d'assumé, de revendiqué. Et il y a un processus artistique qui se fait autour de la misogynie. C'est-à-dire que le rappeur qui va sortir le truc le plus dur envers les femmes, mmh. il va gagner des points. En crédibilité, en notoriété, en authenticité. C'est-à-dire que si on se dit « Ah ouais, lui, il dit des trucs comme ça, horrible. Ah ouais, lui, c'est un vrai, quoi. Okay. » Et ça, c'est un processus qui ne remonte pas d'hier et qui est toujours... qui amène le rap vers toujours plus d'horreur, quoi. Dans mmh. le texte. Mmh.
Il y a personne, enfin à part toi pour l'instant, mais qui a dénoncé ça jusqu'à maintenant. Je suis assez estomaquée aussi, enfin parce que moi j'avoue je n'écoute que très peu de rap, c'est pas le style de musique que j'apprécie le plus, et peut-être aussi pour ça d'ailleurs, c'est pas bon, déjà musicalement c'est pas trop mon style, mais bon, et aussi pour ça, parce que tout ce que j'ai écouté, ça m'a, le peu que j'ai entendu, même sans, j'avais pas idée de tout ce que tu décris là, hein. J'avais pas idée que ça allait jusque là,
hein. Ah, il y a plein de gens qui l'ont dénoncé,
mais
hein.
De toute façon, ah oui, ok, ouais, voilà,
il y a, non, il y a plein de gens qui l'ont fait dénoncer, il y a plein de féministes qui l'ont dénoncé,
ouais.
Peut-être que je suis le seul pour l'instant à le faire de cette manière, en mode YouTube, mmh. Avoir une publication hebdomadaire là-dessus. Enfin,
ouais.
Il y a eu beaucoup de dénonciations, mais le fait que des associations féministes dénoncent des propos de rappeurs, c'est inclus, ouais. comme un moyen de faire du buzz pour les rappeurs. Mmh. C'est-à-dire pour... typiquement, un artiste comme Booba a utilisé ça plein de fois, à plein d'occasions. Il a sorti des trucs horribles sur les femmes. Comme ça, il se fait un bad buzz. Et tu connais bien la logique, Nadia. Bad buzz égale buzz. En fait, un bad buzz, c'est mm-hmm. un buzz aussi, quoi. C'est
ouais.
comme c'est ce que faisait Trump, Bolsonaro et tout. Mm-hmm. Peu importe qu'on dise du mal. De la personne, l'important c'est qu'on en parle. Donc ils sont dans ces logiques là, hein. Les mecs c'est des marketeurs, ils sont très très bons en marketing, c'est le premier talent de Booba, c'est son positionnement marketing. Mais t'as aussi Orelsan qui a fait un morceau absolument horrible. Il savait très bien que toutes les féministes allaient
être
solidaires et aller dénoncer ça. Et il s'est fait un nom avec ça. C'est une espèce de double peine, enfin c'est un double pactole, parce que le gars, Orelsan, il a vraiment il a marché sur la tête des féministes pour se faire connaître. Et du coup, son nom, par tous les gens, et notamment les jeunes sans éducation politique et tout ça, qui n'en ont rien à foutre et qui n'ont pas compris pourquoi cet artiste était dénoncé par les féministes, eux, ils ont juste vu que cet artiste générait du... Enfin, qu'il avait un propos qui dérangeait, tout ça. Donc, il y a une espèce d'attirance.
Voilà.
On est attiré. Ouah, c'est transgressif.
Ouais, ouais.
Mais qu'est-ce qu'il a à dire? Puis on va écouter ses autres sons. Et puis, est-ce qu'il est vraiment comme ça?
De toute façon, si les féministes avaient la cote parmi l'opinion, ça saurait. Hein. Donc, je veux dire, quand on tape sur les féministes, la plupart des gens adorent ça.
Absolument
pas.
C'est absolument pas innocent, parce que Orelsan, il a fait des études de marketing aux États-Unis. Et il est revenu avec son projet rap. Il est revenu des États-Unis avec un projet musical rap pour se faire connaître en tant que Orelsan avec des clips et tout ça. Et il a démarré avec ça. Il a démarré avec des textes horribles où il dit « je vais te Marie Trintigner sur le radiateur ». Il fait des références à Bertrand Cantat, qui est l'assassin de Marie Trintignant, et de manière un peu positive, puisqu'il joue un personnage qu'il incarne lui-même. Et quelque part, il attire la compassion. Voilà, et il y aurait plein d'exemples, il y aurait des dizaines d'exemples de rappeurs comme ça. Alors peut-être c'est les rappeurs les plus intelligents, entre guillemets, qui font ça, parce qu'ils savent que s'ils veulent toucher un peu le grand public, ils vont énerver les féministes. C'est ce que fait Vald aussi, hein, Vald qui est ultra misogyne et donc qui a des propos sur les féministes où clairement il lance la provoque pour se faire... Voilà, pour se faire du buzz et du bad buzz, quoi. Ou du buzz tout court. Voilà, puis sinon, t'as une armée de MC, donc de rappeurs, qui le font parce que tout le monde le fait, en fait. Les mecs, c'est des moutons, quoi. Ils écrivent leurs trucs à la chaîne et si... Ils disent un truc horrible parce que d'autres gens, avant, ont dit des trucs horribles et que s'ils le disent pas... ils vont avoir l'air de pas être des vrais, de pas être de la rue, de pas être du ghetto.
C'est ça qui est dingue, ouais.
Et c'est l'escalade. Mais en fait, c'est du délire. C'est quand on se penche sur cette réalité de ce qu'est le rap aujourd'hui et de la haine et l'apologie de la violence qu'il véhicule, qu'on regarde la place que ça a dans la société. En fait, on se met sur la table. On met sur la table, on va faire un peu des métaphores. Là, Nadia, ça va nous réveiller en cette fin de matinée d'octobre, où il y a encore plein de moustiques. Mais bon, bref, on met sur la table. On a cette violence qui est véhiculée, cette apologie de la haine des femmes qui est véhiculée par le rap. Et on a à côté, sur notre table, on va mettre l'audience du rap. L'audience, elle est gigantesque. D'accord. Le rap a écrasé tous les autres styles.
C'est bien de souligner parce que je m'en rendais pas compte.
Tu prends les charts, les classements de vente de musique enregistrée, les 20 premiers noms, et t'auras presque que des rappeurs. Quoi. Même la variété française, la dance, les autres styles ont du mal à vendre leur musique, à vendre leur stream, à vendre leurs artistes. Tellement les gros artistes de rap ont tout squatté, quoi. Et en fait, c'est les oreilles et l'attention de nos gamins qui squattent aussi. Il y a des millions d'adolescents qui n'écoutent que ça.
En plus de s'éduquer à la sexualité via les vidéos porno,
la pornographie et le rap. L'audience du rap, c'est aussi non seulement tous les ados qui ne veulent pas écouter de rap, qui savent que c'est pas bon ni pour eux ni pour personne. Et ben même ces gens-là, ils en entendent du rap. Je veux dire, même moi qui écoute plein d'autres trucs et qui a horreur de ce rap-là, j'en entends. J'en entends parce que ça passe à la radio, ça passe dans les autoradios, des voitures, ça passe dans des fêtes, ça passe à des anniversaires. Moi, j'ai vu des fois des anniversaires où il y avait tout le monde qui chantait. Donc plein d'enfants, des enfants, des mamans, des gens qui chantaient les textes de En bande organisée. Donc ça fait Tagadji, on la connaît. Au parloir, elle a tourné, donc tournée, tournante. Cognée par des prisonniers. Tu vois, le terme cognée, en fait, dans le sens là, ça veut dire baiser. Cogner, le fait d'entendre ça, c'est très violent. Et c'est un truc qui est omniprésent aussi dans le rap, c'est d'associer le rapport sexuel, enfin l'acte sexuel, à de la violence physique. C'est très souvent, quand le rappeur se met en scène en train de violer ou de baiser une femme, il y associe de la violence physique. Comme si, enfin, c'est quasi systématique, quoi. C'est quand Booba il dit Dulciné veut aller au ciné. Donc hein, on est dans les jeux de mots. Hein. Dulciné veut aller au ciné. Je vais lui casser le dos. Elle ira juste au kiné. Donc voilà tous les sous-entendus qu'il peut y avoir derrière. C'est typique quoi, et c'est tellement habituel, et donc c'est absurde et aberrant que on dénonce la misogynie des ministres, des acteurs, parce que ça c'est indispensable, il faut le faire. Ou dénoncer les propos sexistes d'anciens animateurs télé, par exemple, comme on l'a vu pour Patrice Lafont, pour l'autre gars, là, j'ai oublié son nom. Ça, c'est important de le faire. Il y a plein de comptes Instagram féministes, un peu libfem ou quoi, qui dénoncent toutes les petites phrases, les trucs et tout ça. Et personne ne s'attaque au rap. Pourquoi à un moment donné, on ne pourrait pas dire à un rappeur, mec, t'as écrit ça, vas-y. Pourquoi t'as écrit ça ? Et en fait, ce que tu dis là, ça incite à la violence envers les femmes.
Ouais, tout à fait.
Ça légitime. Ce que tu dis, c'est illégal, en fait. Y a des lois pour nous protéger, pour protéger les femmes. Il y a des lois pour nous protéger contre le racisme, contre le sexisme, contre les discriminations. Voilà. Alors pourquoi on a des lois pour protéger contre les discriminations ? On a des lois anti-discrimination. Et pourquoi ?
Parce qu'il y a tout un business derrière, que ça rapporte de l'argent.
Festival de discrimination sexiste.
J'imagine que la raison, c'est pourquoi on laisse faire, c'est parce que ça rapporte de l'argent. Et voilà, je pense. Et qu'on encourage, c'est notre culture dominante. Comme tu disais, on est dans une régression en ce moment. Pour moi, beaucoup de personnes autour de moi, sachant que je suis féministe, me disent « Ah, mais quand même, ça a beaucoup changé, on ne sait plus comme avant du tout, etc. Les féministes, là, il ne faut pas exagérer, etc. » Mais en fait, je ne trouve pas du tout. Là, il se passe des choses terrifiantes, en fait. Ça, par exemple, ou bien, effectivement, l'apologie de la prostitution, de la pornographie, alors qu'on est dans un pays abolitionniste et on n'a aucune éducation sur ça. Ce genre de choses, c'est insupportable.
Voilà. Alors, autre vaste sujet que véhicule le rap, c'est l'apologie de la prostitution, comme tu dis, Nadia.
Je pense que tout ça, ça va ensemble, quoi. On favorise toujours. Enfin, moi à force, je sais pas, je te dis comme ça, c'est ce qui me vient à l'esprit, c'est dans tous les sens. Mais
je me pose
toujours des questions sur... sur cette violence, d'où elle vient, etc. Est-ce que c'est effrayant de savoir le niveau des violences sexuelles, le niveau du déni, l'impunité des agresseurs, etc. Moi, à force de travailler sur ça, j'ai l'impression d'avoir un regard déformé et c'est très dur à vivre. Et normalement, je ne parle jamais de moi dans cette émission, donc j'en profite que tu sois là, du coup, pour le faire. Parce que d'habitude, je me réfugie un peu, souvent même. Je prépare énormément cette émission et je relaye des textes, des textes d'analyse et féministes radicaux, donc radical, ça veut dire s'attaquer aux piliers du patriarcat, donc la prostitution, la pornographie, notamment, c'est le fondamental, en fait, donc ça revient toujours dans cette émission. Du coup, j'ai perdu le fil.
Rappeler à nos auditeurs ce qu'est la prostitution, parce que on peut pas... On ne peut pas remettre en cause le patriarcat sans s'attaquer c'est quand même la base, c'est le pilier du patriarcat. La prostitution, c'est en fait, si on regarde basiquement ce que c'est, et que si on se rappelle juste ce que c'est, on est sur quelque chose de complètement absurde, archaïque, d'un autre âge. Enfin, la prostitution, c'est l'horreur, quoi. Mm-hmm. Je souhaite à aucune femme au monde d'être un jour victime de la prostitution ou d'être dans un rapport de prostitution. Il y a une époque, voilà, il y a une métaphore, moi, qui me parle pour comprendre le phénomène prostitutionnel, c'est le travail des enfants. Voilà, pendant tout le 19e siècle, il y a énormément d'essor industriel qui s'est fait dans les sociétés industrielles sur le dos des enfants. Il y a énormément d'enfants qui travaillaient à l'époque. Mmh. C'était légal de faire travailler des enfants. Et petit à petit, dans le monde, on a presque fait disparaître le travail des enfants. Quand même, c'est plus un sujet de débat. En fait, ça choque tout le monde, l'idée qu'un enfant ne puisse pas aller à l'école et qu'il soit obligé de travailler. Et là, c'est le même délire, la prostitution, c'est-à-dire qu'on puisse acheter le corps d'une femme, acheter le droit de la violer, moyennant de l'argent, c'est un non-sens idéologique. En fait, ça va à rebours de tout progressisme, de toute humanité. En fait, parce qu'on peut souhaiter ça à personne. On peut pas, en même temps, considérer qu'une personne est un être humain et en même temps la violer en lui donnant de l'argent. Acheter le droit de violer, c'est quand même une négation de l'humanité, c'est-à-dire qu'on
déshumanise femmes sont déshumanisées. Bon, moi je parle au féminin à chaque fois, donc évidemment il y a peut-être des gens qui vont dire ah oui mais il y a aussi des hommes, mais en fait il y en a très très peu, donc il y a quelques trans et très peu d'hommes, donc voilà, les victimes de la prostitution sont essentiellement des femmes, donc je parle au féminin. Et donc effectivement c'est la prostitution, ce ne sont pas des femmes qui se battent ou qui choisissent de se prostituer comme on veut bien nous le faire croire depuis la nuit des temps et dans toute notre culture dominante. Moi aussi, j'ai bouffé de ça depuis toute petite. Donc, je suis vraiment complètement ulcérée et révoltée que c'est encore le discours qui domine. À chaque fois qu'on parle de prostitution, on parle des femmes qui choisiraient, qui se prostituent. Non, les femmes ne se prostituent pas. Elles deviennent prostituables. Pourquoi ? Parce qu'il y a une demande de la part des hommes. Hein, c'est un système suprémaciste des hommes qui demande ça. Ce ne sont pas les femmes qui se lèvent un matin et les petites filles qui naissent pour faire les prostituées. D'accord ? Donc en fait, voilà, ce qui me révolte, c'est ça. C'est que à chaque fois qu'on entend parler de prostitution dans les médias mainstream, dans notre culture mainstream, dans tous les films et tout ça, c'est toujours la femme. La femme, c'est cool, la coolitude de la prostitution. Je supporte plus de voir tout ça tout le temps. Il y a plein de films que je zappe à cause de ça, parce que les rôles attribués aux femmes sont encore toujours ça, ou la maman, la prostituée, toujours pareil en 2022, etc. Moi, j'en peux plus. Bon, bref, en tout cas, je dis que pour comprendre la prostitution, il faut se placer du côté du système prostitueur, donc du côté des hommes, du côté des clients, qui savent exactement ce qu'ils font, et quand ils vont user le corps, de piller le corps des femmes, ils savent tout à fait ce qui se passe, hein. En fait, ils savent ce qu'ils font. Ils méprisent les femmes, ils détestent les femmes, ils font passer toute leur violence sur les prostituées. C'est bien connu, les prostituées, c'est ça qu'elles vivent. C'est pas une idée, comme dit Andrea Dworkin, grande abolitionniste. La prostitution, ça n'est pas une idée, ça n'est pas une idéologie, non. En fait, c'est un corps de femme utilisé encore et encore et encore par des hommes, pénétré par des mains, par un pénis ou par n'importe quoi, en fait, à longueur de journée, par des inconnus, un acte sexuel non désiré. Et donc c'est une violence intrinsèque en soi, et n'importe qui étudie ce sujet est horrifié, voilà. Donc moi ce qui me révolte,
ça touche des millions de femmes,
des milliards de femmes, des millions, mais bon, c'est déjà pas mal,
des millions
en
de
tout
femmes,
cas, oui, des millions de femmes. Pardon, je m'emballe, mais en fait, c'est ce qui me révolte en fait aujourd'hui, c'est que comme tu disais, libfem, peut-être il y a des gens qui savent pas ce que c'est que le libfem. Eh bien, ce qui me révolte, c'est ça, c'est ce libfem. C'est quoi ce libfem en fait? C'est que si vous allez voir la plupart des féminismes aujourd'hui, émissions féministes, radio féministes, etc., journaux féministes, eh bien en fait, c'est du libfem. Et c'est quoi du libfem? Eh ben, c'est nul à chier, quoi. Je vous dis, mon cri de colère aujourd'hui, voilà, je l'ai jamais dit sur cette antenne, mais je n'en peux plus en fait. C'est quoi ce libfem? C'est n'importe n'importe quoi. Ce sont des femmes qui prétendent lutter contre la culture du viol. Ah non, le viol, bien sûr, c'est pas bien, nanana, etc. Et qui, en fait, ne disent que la prostitution, c'est un travail. Ah bon ? Ah bon ? Ah d'accord, ok. Non mais je veux dire, c'est quoi ce délire en fait ?
C'est des gens qui vont employer l'expression « travailleuse du sexe »
voilà,
au lieu de dire « prostituée
voilà, »,
au lieu de dire « victime
voilà.
de la prostitution » parce que
voilà.
Si, voilà, le
vous
mieux,
vous en rendez compte, un travail,
dire,
donc moi je suis une femme, entre mes jambes j'ai un outil de travail, c'est ça ? Non mais c'est quoi ce délire quoi ? Et puis comment elles peuvent prétendre lutter contre le viol et autoriser, alors c'est quoi ? Ça veut dire que le silence achète le viol ? C'est ça ? Donc la domination économique justifie le viol tarifé des femmes ? Mais c'est quoi ce délire ? C'est complètement dingue, on se demande si comment ça passe ça. Moi je suis ulcérée de tout ça.
Dans ce que tu dis, c'est le ce qu'on appelle un phénomène qu'on appelle le féminisme libéral. C'est cette espèce de féminisme un peu hors sol qui a oublié les fondamentaux du féminisme et l'abolitionnisme est un fondamental du féminisme.
Bien sûr,
en fait,
bien
on peut
sûr.
Pas. Il y a aucune lutte qui est crédible si on s'attaque
sûr.
Pas,
exactement.
Si on n'est pas
exactement.
Abolitionniste.
Exactement.
Abolition, c'est comme l'abolition de l'esclavage.
Tout à fait. C'est le dernier esclavage qui reste. Et comme il concerne des femmes et des filles, on s'en fout, c'est ça. Mais bien sûr que c'est
voilà,
le dernier esclavage
c'est
qui reste.
L'esclavage.
Bien sûr.
Et moi, je rêve d'une société où plus aucune femme ne soit obligée de se prostituer.
Et ben
donc
moi...
en ça, je suis abolitionniste. Abolitionniste de la prostitution. Et c'est une idée, en fait, qui est je ne me l'explique pas encore pourquoi, mais c'est à la marge. En fait, on est d'accord, nous. Enfin, il y a le féminisme libéral dont on parlait tout à l'heure et qui raconte un peu tout et n'importe quoi au milieu de choses intéressantes. Ça rejoint un truc que je voulais dire par rapport à la place des hommes dans le féminisme. C'est que un homme qui s'intéresse au féminisme à l'heure actuelle, il va tomber sur du féminisme libéral.
Oui, bah malheureusement,
95%
pas qu'un homme,
fois,
hein, tout le monde va tomber sur ça. C'est
il
ça
va écouter les couilles sur la table où on va lui parler de TDS, entre guillemets, donc de travailleuse du sexe. On va pas employer le mot prostituée ou victime de la prostitution. Il va tomber sur tout un tas de choses aussi, sur la théorie du genre et tout ça. Donc, tout un tas de choses qui vont lui donner un aspect du féminisme. Il va se dire, mais en fait, c'est ultra compliqué, quoi. Je veux dire, moi, je veux bien faire des efforts, je veux bien écouter, mais là, franchement,
mais c'est ça qui
me
rend dingue
tête,
et malade.
Alors
c'est que voilà.
Le féminisme, il n'y a rien de plus simple. C'est ultra simple à comprendre. Et c'est vraiment...
Ouais. Sauf qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, le féminisme c'est ultra simple.
Quand on a juste
voilà.
l'état d'esprit d'écouter, écouter les survivantes de la prostitution, écouter, lire les femmes, écouter cette parole-là, ce message-là, on met quelques secondes à comprendre. Ça va très vite. Moi, quand je suis devenu...
C'est du bon sens, en fait.
En fait, quand je suis devenu abolitionniste, ça m'a pris quelques secondes, quoi. En fait, Je t'ai écouté à toi, j'ai écouté d'autres copines qui m'ont dit, ça m'a pris quelques secondes en fait. C'est tellement évident, c'est tellement évident.
Ouais.
Et ouais. Donc pour en revenir au rap, on est sur une culture qui fait l'apologie de la prostitution. Voilà, on allume la radio, on a en boucle de l'apologie de la prostitution. Alors c'est très schématique hein, ce que je dis, parce que le rap ça véhicule plein de choses et tout, mais en m'intéressant un petit peu plus donc dans ce projet donc pour écrire les épisodes du Dérapeur, je me suis confronté au texte de rap où il y a plein de choses abjectes, misogynes et tout ça, et je suis tombé sur beaucoup plus que ce que j'imaginais, de l'apologie de la prostitution. C'est-à-dire qu'ils sont tous, il y en a, la plupart font référence à Phuket, à Pattaya, à des hauts lieux de la prostitution et de la pédocriminalité. Et ils assument ça complètement. Et en fait, ils se parlent entre mecs, On est presque dans la recommandation, Nadia. C'est-à-dire que si je prends certains textes de lyrique, t'as quelqu'un qui, dans un morceau de rap, te recommande d'aller à Pattaya, d'aller voir des prostituées, et comme un mode de vie, comme quelque chose de tout à fait normal, et comme ils auraient droit à ça en fait, dans leur imaginaire, dans leur narratif. De virilité, ils sont là-dedans, et ça c'est effarant quoi. Et donc petit à petit je me suis rendu compte, enfin assez rapidement je me suis rendu compte des liens énormes qu'il y avait entre la pornographie et le rap. J'estime que le rap en fait je voyais le rap comme un truc énorme, et je me disais il y a des liens avec la pornographie. Mais la pornographie, c'est un truc énorme. Le système de la porno-prostitution, donc la pornographie, c'est la prostitution filmée, hein, même au niveau étymologique, c'est ça que ça veut dire. Pornographie, c'est la prostitution en images. Ce monde-là, il est dans les représentations qu'il a de la femme. La pornographie véhicule une représentation de la femme qui est très violente, qui est très misogyne. Et en fait, le rap est une caisse de résonance de cette culture-là. En fait, la pornographie, c'est aussi la culture du viol. Il y a beaucoup de viols qui sont esthétisés, il y a des viols qui sont filmés et puis il y a des viols qui sont mis en scène dans la pornographie. Donc des situations de viol ou des situations de violence qui sont filmées. Ça, c'est la pornographie. Et le rap est une caisse de résonance de ça. Avec même des références. En fait, il y a des gros producteurs de porno qui sont cités comme des exemples dans le rap. Par exemple, Kaaris. Kaaris, qui est un des rappeurs les plus importants, qui a le plus d'audience dans le rap game à l'heure actuelle. Kaaris, il a un passage, il dit « Je suis OP comme Pascal ». Il fait une référence à Pascal OP. Pascal OP, c'est un producteur de films porno qui est impliqué dans des affaires en tant que dans des affaires de torture, d'actes de barbarie, de séquestration. C'est-à-dire, c'est un gars qui avait un système où ils arnaquaient des filles sur les réseaux sociaux en se faisant passer avec des faux comptes de femmes, en créant une relation avec des femmes. En fait, le gars, c'était un proxénète et c'était un rabatteur. Et il arrivait à embobiner des femmes à qui il faisait croire qu'elles allaient faire une petite passe d'escorte très bien payée dans un endroit totalement safe avec des gens de confiance et tout ça. Puis ils arrivaient à faire croire à ces femmes. Mmh. Et les femmes, elles se sont retrouvées torturées, violées des films porno, dans des vidéos porno qui s'appellent les French Bukkake. Donc là, c'est un petit peu horrible. Bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas entendre ça, mais c'est un rapport parlementaire du Sénat qui raconte ça. Et c'est toute une affaire qui a été relayée par le journal Le Monde à la fin de 2021, et c'est une affaire qui est scandaleuse, qui implique plein de gens, qui implique Dorcel, qui implique Jackie et Michel, parce que c'est des plateformes qui relayent ensuite ces vidéos. Et les French Bukkake, c'est ce qu'on appelle des gangbangs. C'est absolument, c'est abject. Les femmes qui se sont retrouvées là-dedans, qui ont été arnaquées, qui se sont retrouvées là-dedans, sont dévastées en fait.
Et les vidéos resteront en ligne.
C'est un meurtre psychique sans nom. On peut pas se représenter ce que c'est que de. On peut pas avoir de même essayer d'avoir de l'empathie ou de la représentation pour ce qu'on vécu. En fait, elle est nécessaire, l'empathie. Il faut absolument que les gens se rappellent que les gens qui ont été victimes de ça sont des êtres humains, qu'on fait partie de la même famille humaine, qu'on fait partie de la même société, et que on a le devoir de dénoncer ça, on a le devoir de tout faire pour empêcher se reproduise.
Je suis d'accord, c'est un devoir de citoyenne, voilà. Et de citoyen. Et malheureusement, il faut savoir qu'il y a plein de... plein de gens regardent ces vidéos.
Cite Pascal Oppé, le cite. Le rappeur Al Capote, qui a fait des featuring avec tout le monde, qui est assez connu aussi. Il a des textes, c'est de l'apologie du viol sans arrêt. Lui, il a carrément fait un clip avec Pascal Oppé, c'est-à-dire que comme c'est un personnage, il l'a fait apparaître dans son clip. Et ils travaillent ensemble. Les mecs travaillent ensemble. Il y a le rappeur Seth Gecko qui a fait des vidéos pour Jackie et Michel, des versions de leurs clips. Des versions porno. Vald a fait des versions porno de son clip. Damso, enfin, il y a de plus en plus de rappeurs, évidemment. C'est comme toujours pareil, il y a les Américains qui le font. Alors, un petit peu après, t'as les Français qui se mettent à faire ça aussi. Les rappeurs français. Donc, ils font une version porno de leur clip. Parce qu'ils ont une promo sur les plateformes de pornographie.
Ah, carrément. Version porno de leur clip.
Une version porno et puis des interviews. Ils font des interviews avec des actrices, où ils font de temps en temps.
Ils sont complètement liés à ce milieu-là. Quoi,
ils font
de proxénètes.
Acteurs porno. Seth Gecko, il a fait acteur porno aussi pour se faire connaître aussi. Enfin, ouais, c'est le. Voilà, je sais plus comment a commencé ma phrase.
Bon, peut-être rappeler que justement, comme tu l'as dit, il y a la délégation aux droits des femmes au Sénat qui a rendu un rapport sur la pornographie. Et donc, faut saluer le travail qu'elles ont fait avec le soutien de toutes une quarantaine d'associations féministes abolitionnistes, comme le sont la plupart des vraies associations féministes qui luttent contre les violences faites aux femmes et qui sont sur le terrain.
Ouais.
Et voilà, donc on vous encourage à aller voir ça.
Au passage, je pense que c'est bien aussi de s'impliquer. Moi, je suis adhérent à Oser le féminisme. Donc, c'est une association que j'aimerais citer aujourd'hui, qui est très importante dans le féminisme à l'heure actuelle. C'est une association qui est solide, qui est fiable. Donc, si à un moment donné, vous voulez du contenu...
Oui, parce qu'elles agissent vraiment.
Et
elles
des moyens d'agir.
Bien sûr. C'est bien de citer...
En tant qu'homme aussi, parce qu'on peut être un homme et s'investir, être militant, assister à des conférences.
On vient d'assister donc à une conférence, donc je l'ai podcasté cette conférence sur où on en est de l'application de la loi 2016, formidable loi révolutionnaire abolitionniste, qui malheureusement manque d'application par manque de volonté politique, par manque de moyens que l'on attend, par manque de formation, etc. Et qui, quand elle est appliquée, fonctionne et permet. C'est la seule loi qui a supprimé le délit de racolage pour les prostituées, au contraire de ce que disent les pros travail du sexe qui mentent tout le temps et qui nous font passer pour des prohibitionnistes, ce que nous ne sommes pas. Donc, au contraire, cette loi abolitionniste ne sanctionne pas les prostituées, pas du tout. C'est faux, entièrement faux. Mais ça, c'est des mensonges qu'on entend encore tout le temps de la part des gens qui disent oui, mais faut pas s'en prendre aux prostituées. Mais non, on ne s'en prend pas aux prostituées, on s'en prend au système prostitué, on s'en prend aux clients.
C'est-à-dire qu'avant cette loi, les prostituées pouvaient être verbalisées.
Exactement. Et alors,
avec cette loi, c'est le client de la prostitution qui peut être verbalisé.
Voilà.
Et la prostituée ne peut pas être verbalisée.
Donc, tous les mensonges qu'on entend en permanence,
c'est-à-dire
me rend dingue.
C'est-à-dire que la force de cette loi, c'est de considérer la personne comme une victime. Elle est victime de la prostitution. Elle est pas. Le crime, il est mal.
Il est du côté des hommes qui achètent ou des hommes qui l'exploitent,
enfin,
etc.
Crime. J'aimerais bien que ça soit considéré par la loi comme un crime, mais c'est un délit. C'est pas un crime. Il faut parler des clients de la prostitution parce qu'on n'en parle jamais. On n'en parle jamais.
Voilà, c'est ça qui peut faire comprendre aussi aux personnes qui bloquent et qui n'arrivent pas à comprendre. J'essaye à chaque fois de faire énormément de pédagogie, mais C'est vraiment.
Non, mais il y a plein de.
C'est, je pense que ce qui bloque pour plein de. Voilà, plein d'images d'Épinal, notre culture dominante qui nous a toujours dit que, voilà, notre culture dominante patriarcale qui nous a toujours dit que c'était un rôle acceptable, la prostituée, etc. Et aujourd'hui, ça continue. On n'est pas sorti de ça, puisque avec ce lobbying de proxénètes, en fait, qui est très puissant, en fait, puisqu'ils ont des milliards, voilà, avec le porno, avec l'industrie. C'est une industrie criminelle, une industrie de la porno-prostitution. À la tête de cette industrie, il y a un lobbying de multimilliardaires, quoi, des milliardaires comme George Soros, par exemple, mais il y en a plein d'autres, en fait. Voilà, et c'est ça qui est évidemment, c'est pour ça que.
Les clients de la prostitution en Espagne, on les appelle les puteros, parce que l'Espagne est un pays très touché. Par la prostitution, mais il y a aussi énormément d'abolitionnistes. Il y a les manifs abolitionnistes.
Ouais, j'espère qu'ils deviennent abolitionnistes.
Elles sont très.
Les femmes se battent pour l'abolition en Espagne.
Et aimeraient beaucoup avoir la loi qu'on a en France depuis le 13 avril 2016. Et donc, ces clients de la prostitution, qu'on appelle en Espagne les puteros, c'est en fait dans le rap, le rap, c'est une majorité de puteros, c'est des clients de la prostitution, les rappeurs. Et donc il y a un aspect la culture du putero, quoi, la culture du client de la prostitution. Tu sais que en ce moment c'est l'ubérisation de la prostitution. La prostitution est un phénomène qui prend de l'ampleur. Il y a plus en plus de prostitution. Avec la révolution numérique, la prostitution
sur Internet,
se transforme.
Bien sûr, tout est, voilà.
Et prend autant d'ampleur que le porno en prend, puisque c'est
la
même dynamique. Ouais, c'est pour ça que je parlais au tout début de notre entretien de recul. De recul de droits des femmes, de recul de la sécurité des femmes, d'avancée de la culture du viol.
Oui, tout à fait.
Général.
L'âge moyen d'entrée, c'est 13-14 ans. La filière de recrutement, c'est l'inceste. Hein. Donc voilà, rappelons-en. Hein. Les femmes qui soi-disant consentiraient, en fait, non, quel choix elles ont. La très grande majorité, 90%, sont des victimes de traite, des femmes étrangères, des femmes migrantes. Hein, voilà. Les femmes n'ont tellement pas envie de se prostituer qu'il y a un système criminel de traite qui est fait pour ça, pour les recruter. Voilà. Et celles qui, entre guillemets, seraient libres, ce qui est complètement faux, en réalité, on se rend compte que bien ce sont des une très grande majorité de ces filles ont été conditionnées, cassées par des violences sexuelles subies dans l'enfance, et quand on sait qu'une petite fille sur cinq subit l'inceste, et ben voilà, c'est effroyable, hein, la filière de recrutement de l'inceste. Mais en fait, l'inceste et la pédocriminalité, c'est pas une petite chose, hein, c'est énorme, quoi, ça. Donc voilà, quand c'est deux sujets qui sont très liés aussi,
c'est pour
ça
qu'on parle de système. Donc, voilà, l'inceste fait partie de l'équation malheureuse d'un destin d'une victime de la prostitution.
Tout à fait.
La plupart, une grande majorité de gens qui ont vécu ça dans leur vie ont été incestés dans leur enfance.
Tout à fait.
Alors, l'ubérisation de la prostitution, donc les puteros, on a aussi ce phénomène t'as des sites où les mecs font des commentaires. C'est comme un Airbnb, comme tous les Uber et tout ça. Ouais. Tu laisses des commentaires.
Ouais. Ouais, ouais.
Donc, ils laissent des commentaires. Ils disent, celle-là, elle regardait le plafond, elle avait l'air de s'en foutre et tout, pas sympa et tout. Je la reprendrai pas, quoi. Et c'est vraiment plus en plus de féministes qui essaient de faire ressortir ça, c'est que
c'est intéressant de lire les paroles des clients. Mais moi, j'ai jamais réussi à les lire.
Les clients de la prostitution, ils sont abjects.
Ouais, voilà, ça c'est rien, ce que tu as dit là.
Ça,
rien
ça
du
fait
tout.
Partie des contenus qui sont très durs à appréhender.
Exactement.
Mais
voilà.
Qui sont nécessaires à appréhender.
Exactement. Moi, j'ai tout un dossier, pardon.
Les rappeurs,
sur les clients.
Les rappeurs se font l'écho de ça. C'est-à-dire que ils se positionnent eux-mêmes en tant que clients de la prostitution. Ils se positionnent eux-mêmes en tant que puteros, et ils ont un espèce de, ils sont dans l'encouragement, dans la validation. Ils encouragent les autres mecs à aller à Pattaya et à aller exploiter des.
Moi, j'ai tout un dossier sur les clients. Je me suis dit, voilà, il faudrait que je lise les paroles des clients pour toutes celles et ceux qui comprennent pas ce que c'est que la prostitution. Mais j'ai même pas réussi à les lire, en fait. J'ai même pas réussi, quoi. Ça m'a déjà, de les lire moi-même, ça me traumatise. Et de les lire, j'arrive pas. J'ai l'impression de vomir dans le micro. Et pourtant, oui, visiblement. Enfin, je pense que c'est utile à tous ceux et celles qui vous disent, travail du sexe, quoi. Il faudrait vraiment leur lire. Non, mais, les clients sont pas dupes, quoi. Ils savent que c'est pas un travail, quoi. Il y a que, je veux dire, c'est je sais pas comment dire. En fait, je suis super choquée par à chaque fois que je rencontre des fausses féministes en carton-pâte, quoi, qui comprennent pas ça, le nombre de jeunes femmes qui savent que je suis féministe et qui savent que, je sais pas, qui se disent féministes, hein, et qui, sachant que je le suis, moi, je leur dis, bah tiens, il y a une conférence sur le système prostitutionnel à Marseille, tiens, pourriez peut-être venir écouter, peut-être, non ? Ben non, il n'y a aucune réponse, ça, c'est effarant, qu'est-ce qui se passe dans la tête de toutes ces femmes qui se disent féministes, qui veulent rien savoir, en fait, qui veulent pas savoir, donc qui croient être féministes, bon, déjà ça, donc je sais pas ce qu'elles ont dans la tête, et puis sans compter toutes les femmes influencées par les libfem qui répondent bêtement, qui vont organiser le 25 novembre en disant pas de swerf, pas de terf, pas de machin. Les swerf, en fait, c'est moi, quoi. Swerf, ça voudrait dire, en fait, c'est un mot injurieux contre les abolitionnistes, quoi. J'ai envie de vomir quand je lis ça, pas de swerf, quoi. Ouais. Ça veut dire que moi, elles nous appellent des putophobes, mais c'est une inversion ignoblissime.
Alors moi, je me suis fait traiter de putophobe.
moi, je suis putophobe parce que je veux pas que les femmes soient rendues prostituables, parce que moi, je veux qu'on leur offre autre chose qu'une bite dans la bouche quand elles ont faim et qu'elles ont besoin de manger, quoi. Ouais. Voilà, c'est moi là, putophobe, en fait. Moi, je suis putophobe, quoi. Ouais. Et alors que ces femmes-là qui me traitent de putophobe, je suis vraiment en colère, quoi. Parce que elles, jamais de la vie, ça leur arriverait de se prostituer. C'est sûr et certain que ça leur est pas arrivé. Voilà. Et ça va pas leur arriver, quoi. Et elles te disent, c'est un travail, quoi. Et, ouais. Et donc, je veux dire, ça me met en colère. Je suis désolée, j'en profite pour dire, voilà, tout ce que je vis au quotidien, dans mon quotidien d'abolitionniste, quoi. Alors, ça me choque à chaque fois.
Oui,
l'autre fois, je t'en ai parlé pour partager avec toi. Je rencontre une femme, soi-disant travailleuse sociale, et qui me dit, je connais très bien la prostitution. Et comme je lui dis que je suis abolitionniste, elle me dit, ah, alors pour toi, les prostituées sont des victimes. Et elle voulait se foutre de ma gueule avec ça, me dire que c'était obscène de considérer que les prostituées sont des victimes. J'étais sidérée. J'arrive même pas à répondre, quoi. Oui, en fait, sont des victimes, en fait.
Oui,
bon sang, renseigne-toi,
victime,
en fait.
Victime, ça n'a rien de péjoratif,
voilà.
En fait. Victime,
c'est ça,
c'est
exactement,
factuel.
C'est factuel, voilà. Alors, j'ai envie de lui dire,
catastrophe écologique, on peut être victime du cancer.
Voilà.
Victime,
non, mais qu'est-ce qu'elle voulait dire en se foutant de ma gueule comme
homme,
ça, je veux
femme,
dire.
Noir, blanc.
Voilà, il y a des victimes, il y a des bourreaux, en fait.
Ça n'enlève rien à la personne d'être une victime et ça ne lui ajoute rien. Il n'y a pas de valeur dans le mot victime.
Puis se foutre de ma gueule parce que je dis un truc qui est une vraie réalité, quoi. En fait, c'est que oui, il y a un système, voilà, qui il y a des victimes et il y a des victimes et il y a des bourreaux. Il faut pas confondre les deux, en fait, c'est pas les mêmes. Voilà. Et du coup, faut pas mettre sur le dos aux femmes prostituées que ça serait, elles seraient responsables de ça. Non, non, voilà, non. Elles sont pas responsables, elles sont victimes du système. Voilà. Ok. Bon ben, pardon, je t'ai.
Non, c'est... Moi, une fois, je me suis fait traiter de swerf, donc de putophobe. C'était à l'occasion de. Il y a un rappeur marseillais là, qui s'appelle Soso Maness, qui avait fait. Il avait fait un. Bref, il y avait eu un débat un moment sur cet artiste, et moi, j'ai été scandalisé. Par cet artiste, par ses textes de rap. Donc j'avais cité un texte, un morceau qui s'appelle Petrouchka, qui fait plus ou moins c'est même pas plus ou moins, c'est clairement l'apologie de la prostitution. C'est en mode tous les rapports que j'ai avec des femmes, c'est que avec des prostituées, comme ça je m'emmerde pas, avec l'apologie des Kalachnikov, donc c'est le refrain AK-47, tout ça machin. Et donc j'avais une discussion sur les réseaux sociaux et un gars m'avait traité de putophobe. Il m'avait dit mais pourquoi il aurait pas le droit d'avoir comme copine une travailleuse du sexe. Il m'a sorti ça et à chaque fois que je vois passer ce terme, donc c'est une c'est de la novlangue néolibérale pure jus, quoi.
Imposée par le lobbying proxénète. C'est maintenant les proxénètes sont féministes. Voilà, c'est la nouveauté. Maintenant, les proxénètes sont féministes et la prostitution c'est un travail. Voilà. Faut quand même ouvrir les yeux, quoi. Comment les gens peuvent gober et répéter une horreur pareille, quoi. Je veux dire, je sais pas. J'en reviens pas, quoi. Mm-hmm. Voilà, c'est juste imposé par un lobbying, le lobbying proxénète, c'est leur vocable. Bah, bien sûr, c'est un travail pour eux, oui, c'est un travail, ça rapporte beaucoup d'argent.
Peut-être on peut faire un intermède musical.
Ah oui, tout à fait, oui, parce que du coup, on n'a pas fait et ça serait... Ouais, je veux bien, donc...
Allez, ok.
En fait, voilà, tu vas lancer... Ah, pardon. Voilà.
Quelle pote nouvelle est maman? J'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Pour aller où? J'en sais rien. Viens. Papa, il a une grosse voix. Tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien. Mémé, elle rit souvent. Tu crois qu'elle est toujours contente? J'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Périne, elle est grande, presque comme maman. Pourquoi elle joue pas avec moi? J'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Christophe, il est grand, mais pas comme papa. J'en sais rien, viens donne-moi la main. Dis, Mélocotone, tu crois qu'il nous aime? Ma petite boule d'or, j'en sais rien, viens donne-moi la main.
Yes.
Ouais.
Ah, moi,
je voulais
je voulais parler de aussi. Moi, mon féminisme aussi, c'est des lectures qui m'ont transformé, qui m'ont ouvert les yeux, le cœur, le cerveau, un peu tout, quoi, et qui m'ont énormément enrichi. En particulier Andrea Dworkin, qui est une féministe américaine abolitionniste qui est extra lucide. Moi, j'ai envie de dire que cette meuf, elle a une pensée, mais qui est au-dessus.
Je suis heureuse de te l'avoir fait connaître. Je pense que c'est moi qui te l'ai fait connaître.
C'est une référence qui revient souvent dans la pensée abolitionniste, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a été très très loin c'est très très facile à comprendre aussi ce qu'elle explique, et elle le dit d'une manière qui est...
D'ailleurs, j'avais amené avec... je te l'ai dit, mais je te laisse continuer, pardon. Mais j'ai amené, au cas où on ait le temps, son discours qu'elle a fait devant des hommes qui demandaient, justement, on a parlé au début de comment un homme pourrait être allié, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les hommes par rapport à ça. Eh bien, elle avait fait un discours qui est magnifique, « Talking to men about rape », parler aux hommes du viol. Voilà, c'est un peu long, si je lis tout ça va durer une demi-heure, mais voilà, c'est un discours très 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 fort. Si on a le temps, je voudrais bien en lire après un petit paragraphe.
Alors, il y a un podcast du collectif abolition porno prostitution, donc le CAPP, où il y a des textes d'Andrea Dworkin qui sur l'antiféminisme qui sont hyper intéressants et qui résonnent à l'heure actuelle. Enfin, c'est des textes des années 80, et pourtant là, ça résonne à fond avec l'actualité du féminisme.
Pardon, on vous encourage aussi à suivre le collectif Abolition Porno Prostitution, collectif de survivantes de la porno prostitution, et qui lutte et qui ont vraiment besoin d'être soutenues parce que justement elles sont sans arrêt agressées pendant les manifs, harcelées, etc.
Elles ont un Tipeee. On peut leur donner sur le Tipeee et elles sont très très isolées dans le féminisme parce que elles savent l'ampleur de
c'est ça comme elles savent
de ce que c'est et
il
finalement
faut absolument les faire taire, elles sont vraiment toujours en danger.
Voilà, il y a donc c'est important dans le collectif abolition de la porno-prostitution, le CAPP qui a un Tipeee et voilà, on peut donner c'est important. Et voilà ce que j'aimerais vraiment dire aux Marseillais qui nous écoutent et aux Marseillaises, mais plus aux Marseillais du coup, comme je suis le premier invité, ça fait 3 ans qu'existe cette émission féministe, je suis le premier invité hyper fier, je suis hyper content et merci beaucoup. Et j'ai envie de dire aux gars que le féminisme, mais c'est passionnant, c'est vraiment c'est excellent, c'est quelque chose qui en fait le Il y a des gens qui disent que le féminisme, ça fait avancer toute la société. Le féminisme, c'est bon pour les femmes, c'est bon pour les hommes, c'est bon pour les enfants, le féminisme. Le féminisme, c'est bon pour les enfants. Je le redis 2 fois, comme ça c'est clair. Le féminisme, c'est bon pour la nature, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour nos sociétés, notre organisation sociale. Le féminisme, c'est bon pour les métiers qu'on a envie de faire. Les féminismes, c'est bon pour les échanges qu'on a envie d'avoir dans notre société. Quel type d'échange on a, quel rapport on a avec les autres. Le féminisme, c'est bon pour notre culture. Le féminisme, c'est bon pour nos arts. C'est bon pour nos musiques. C'est bon pour notre cinéma. Le film de Chloé Zhao, qui a eu la Palme d'Or l'an dernier, Nomadland, c'est un bijou de cinéma, et c'est un film c'est un film de femme, et c'est universel, ça touche tout le monde, tous les êtres humains. Si on a un cœur et qu'on est un être humain, on ne peut qu'être touché par ce film et passer un bon moment instructif à voir ce genre de film, Nomadland. Dans la musique, quelqu'un comme Björk, c'est une génie. Björk, c'est une génie. Tu vois, j'ai du mal à dire une génie parce qu'on ne dit pas une génie. Et pourtant, Björk, c'est vraiment le prototype de quelqu'un, d'un esprit humain qui fait avancer tout le champ artistique, parce qu'elle, c'est même plus de la, c'est au-delà de la musique. Ce que fait Björk, c'est complètement, c'est pas du tout pop, c'est le contraire de la pop et c'est un autre rapport. Parce qu'elle propose un autre rapport à l'expérience sonore et à l'artistique audio, quoi. Elle est fascinante. Donc, tout ça, la BD. La BD, le féminisme apporte à la BD un renouveau complet de ce à quoi peut servir une BD. En fait, une BD, ça, c'est génial, le format BD, les cases, c'est un outil de vulgarisation scientifique, la BD. On connaît Marion Montaigne, mais on connaît aussi Liv Strömquist, par exemple. Liv Strömquist, elle prend du savoir froid de psychologues qui ont fait des études vachement poussées, vachement compliquées, et elle en fait des BD qui restent un petit peu ardues à lire. C'est pas facile à lire, Liv Strömquist, mais c'est déjà un petit peu plus compréhensible que les articles scientifiques desquels elle s'inspire, et ça fait vraiment travailler le cerveau, ça fait vraiment avancer, et on apprend des tas de choses. Liv Strömquist, moi j'ai appris plein de choses sur le rapport amoureux, par exemple, parce que nous les mecs, on a un rapport au sentiment amoureux qui est très compliqué. Alors, est-ce que ça vient des schémas de la société et tout ça? Est-ce que ça vient du patriarcat qu'on a en nous, de notre façon de voir les femmes, c'est une façon de voir les femmes qui est très influencée par le patriarcat. Ça c'est très bien expliqué par c'est le message principal du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, c'est l'autre, la femme, c'est soit la maman, soit la putain, en fait, et elle dénonce ça, évidemment. Quand elle dit « on ne naît pas femme, on le devient », elle dénonce ça, elle dénonce le fait qu'on est, parce qu'on est une femme, parce qu'on a un utérus et tout ça, on n'a pas la même vie et on est conditionné à vivre une vie d'autre, une vie de à côté, mm-hmm. une vie voilà, c'est dans le cinéma aussi la femme c'est l'autre, c'est jamais le héros. En fait, on a besoin de contenu artistique et culturel où la femme c'est elle qui choisit, c'est elle qui a des problèmes, qui résout les problèmes, c'est elle qui c'est le sujet.
C'est ça.
Voilà. Il faut sortir de la femme voilà. objet.
Tout à fait.
Il faut rentrer dans l'ère
c'est vraiment ça,
de la femme tout sujet.
Tout à fait. Et on est encore loin dans les films qu'on voit très souvent. C'est pas ça encore. Mm-hmm.
Donc, Liv Strömquist, je vous recommande. C'est vraiment, c'est génial. Et puis, il y a des tas de choses incroyables à découvrir. Quoi. Bon, Andrea Dworkin aussi, évidemment. Waouh, l'heure tourne. Je savais que ça faisait longtemps que je n'étais pas venu à Radio Galère en plus. Parce que, bon, comme je disais au début, moi je suis Duval MC, donc je suis venu souvent à Radio Galère en interview et tout, parler de mes concerts et tout. Mais là, ça me touche particulièrement parce que je viens pas en tant que Duval MC parler aux Marseillais aujourd'hui. Je viens en tant que dérapeur. Je suis le dérapeur. Vous entendez le dérapeur sur les ondes de Radio Galère en direct de l'émission La Révolution sera féministe. Donc, je vous invite à venir me suivre. Le dérapeur est dans YouTube, le dérapeur est dans Instagram, le dérapeur est sur Facebook et le dérapeur est même sur TikTok. Donc, allez vous connecter, vous tapez dans le moteur de recherche, vous tapez le dérapeur de votre plateforme préférée. Et vous pourrez voir, il y a déjà 3 ou 4 vidéos. Il y a déjà 4 vidéos où j'analyse les textes des rappeurs. Voilà. Et j'essaie d'en montrer. Enfin, je sais pas parce que j'y arrive, parce que c'est évident. L'ultra-misogynie de la culture rap, du rap en tant qu'idéologie. Idéologie néfaste pour les femmes.
Ok, on va peut-être terminer là-dessus. Du coup, je me sens un peu frustrée, donc je vais quand même lire, frustrée de ne pas avoir lu un petit paragraphe d'Andrea Dworkin. Donc je vais finir par ça, voilà, c'est toujours bon à prendre, moi, monsieur, je dois faire vite. Yes. Donc juste le début qui vous donne envie de le lire ensuite. Donc Andrea Dworkin, Talking to Men About Rape, parler aux hommes du viol. Je vous lis que des extraits, pas beaucoup. J'ai beaucoup réfléchi à la façon dont une féministe comme moi s'adresserait à un public principalement composé d'hommes militants qui se disent antisexistes. Et s'il devait y avoir une requête, une question ou une interpellation humaine dans ce cri, ce serait ceci. Pourquoi êtes-vous si lent ? Pourquoi êtes-vous si lent à comprendre les choses les plus élémentaires ? Pas les choses idéologiques compliquées, celles-ci vous les comprenez. Les choses simples, les banalités comme celles-là, les femmes sont toutes aussi humaines que vous, en degré et en qualité. Et aussi, que nous n'avons pas le temps, nous, les femmes, nous n'avons pas l'éternité devant nous. Certaines d'entre nous n'ont pas une semaine de plus ou un jour de plus à perdre pendant que vous discutez de ce qui pourra bien vous permettre de sortir dans la rue et de faire quelque chose. Nous sommes tout près de la mort, toutes les femmes le sont. Et nous sommes tout près du viol, et nous sommes tout près des coups. Et nous sommes dans un système d'humiliation, duquel il n'y a pour nous aucune échappatoire. Nous utilisons les statistiques non pour essayer de quantifier les blessures, mais pour simplement convaincre le monde qu'elles existent bel et bien. Ces statistiques ne sont pas des abstractions. Le pouvoir exercé par les hommes dans la vie quotidienne est un pouvoir qui est institutionnalisé. Il est protégé par la loi. C'est une chose extraordinaire que d'essayer de comprendre et de confronter pourquoi les hommes croient qu'ils ont le droit de violer. Les hommes peuvent ne pas le croire quand on le leur demande. Que tous ceux qui croient que vous avez le droit de violer lèvent la main. Peu de mains vont se lever. C'est dans le quotidien que les hommes croient qu'ils ont le droit à la contrainte sexuelle qu'ils n'appellent pas viol. Et c'est une chose extraordinaire d'essayer de comprendre que les hommes croient réellement qu'ils ont le droit de frapper et de blesser. Et c'est une chose tout aussi extraordinaire que d'essayer de comprendre que les hommes croient réellement qu'ils ont le droit d'acheter le corps d'une femme à des fins sexuelles. Que c'est un droit. Et c'est totalement ahurissant d'essayer de comprendre que les hommes considèrent comme un droit le fait qu'une industrie de 7 milliards de dollars par an, le système prostitutionnel, les approvisionne en vagin. C'est la manière dont le pouvoir des hommes est manifeste dans la vie réelle. C'est ce que la théorie de la domination masculine dit. Elle dit que vous pouvez violer. Elle dit que vous pouvez frapper. Elle dit que vous pouvez blesser. Elle dit que vous pouvez acheter et vendre des femmes. Elle dit qu'il y a une classe de personnes disponibles pour vous fournir ce dont vous avez besoin. Vous restez plus riche qu'elles, de sorte qu'elles doivent vous vendre du sexe. Pas simplement au coin des rues, mais au travail. C'est un autre droit auquel vous pouvez prétendre. L'accès sexuel à n'importe quelle femme dans votre entourage, quand vous le voulez. Comment faire quelque chose à propos de tout ça ? Le mouvement des hommes semble rester bloqué sur deux points. Le premier est que les hommes ne se sentent pas très bien par rapport à eux-mêmes. Comment le pourriez-vous ? Le second est que les hommes viennent me voir, moi ou d'autres féministes, et disent « Ce que vous dites à propos des hommes n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai en ce qui me concerne. Je ne ressens pas les choses de cette manière. Je suis opposée à tout ça. » Et je dis « Ne me le dites pas à moi. Dites-le aux pornographes. Dites-le aux macs. Dites-le aux faiseurs de guerre. Dites-le à ceux qui font l'apologie du viol et à ceux qui célèbrent le viol et aux idéologues pro-viol. Dites-le aux romanciers qui pensent que le viol est merveilleux. Dites-le aux pornocrates comme Larry Flint et Hugh Hefner, etc. » Ensuite, il y a le monde privé de la misogynie. Ce que vous savez les uns des autres, ce que vous dites dans la vie privée. L'exploitation que vous voyez dans la sphère privée. Les relations appelées amour basées sur l'exploitation. Il ne suffit pas d'aller à la rencontre de la féministe de passage et de lui dire « Bah, je déteste ça ». Dites-le à vos amis qui le font. Et il y a des rues dehors où vous pouvez dire ces choses haut et fort pour peser sur les institutions qui maintiennent ces violences. Vous n'aimez pas la pornographie ? Je voudrais pouvoir croire que c'est vrai. Je le croirais quand je vous verrai dans la rue. Je le croirais quand je verrai une opposition politique organisée. Je le croirais quand les macs se retireront des affaires parce qu'il n'y aura plus de consommateurs. Voilà. Yes. Je vais arrêter là parce que c'est l'heure, mais je vous encourage à,
yes,
à voir, à le lire. Voilà. On va terminer là-dessus et je vous dis donc à la semaine prochaine. Aussi, non, quelque chose, quand elle dit ça, les hommes, ce que vous pouvez faire, moi j'ajouterais justement qu'il y a des hommes qui vont dans ce sens-là. C'est une association dont je t'avais déjà parlé. J'encourage tous les hommes alliés féministes à la rejoindre, c'est Zéro Macho.
Moi j'y suis, je suis adhérent.
Ah, génial, macho. Elle est fondée.
C'est une association abolitionniste.
Bah, exactement. Voilà. Ouais. Elle a été créée par Florence Moreno et voilà, pour les hommes abolitionnistes, yes, qui luttent pour le féminisme et pour l'abolition. Voilà.
Voilà. Donc, écoutez, La Révolution sera féministe. Ça, c'est en podcast. Aussi, partagez ce podcast qui est juste nécessaire et super intéressant. Moi, j'ai découvert plein de choses en écoutant ton émission.
Merci.
Merci à toi. I'll be doing four fans in the boogie lands, east to west, north to south.